J'utilisais simplement, après le survol ce matin du psaume 145 qui a été entrecoupé de chants, je voulais simplement relire les versets 4 à 7 en ayant un petit peu transformé ou en mettant l'accent sur que chaque génération, puisqu'effectivement dans les versets 4 à 7 il y a le petit mot « quel » et donc j'ai remplacé le « quel » par « que chaque génération ». Et donc ça devient « que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles ». Que chaque génération publie tes exploits, l'éclat de ta gloire et de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Que chaque génération parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes exploits. Que chaque génération évoque tes bienfaits immenses, et que chaque génération chante ton salut. Donc par rapport à ces versets, la question c'est comment ça résonne chez vous ? Comment que chaque génération résonne chez vous. Pour moi, je me retrouve au travers de cette chaîne, puisque chaque génération qui transmet à la suivante, eh bien, je m'inclus dans cette continuité. Et ce qui me permet de dire que nous faisons partie de cette histoire avec le peuple de Dieu. Et encore aujourd'hui, David nous encourage, et je m'encourage à dire, à parler, à publier, à évoquer et à chanter les bienfaits de Dieu. Quels étaient les sujets de discussion ou de louange par rapport à ce que proposait David ? Qu'à l'époque de David, où ce psaume a été écrit, bah effectivement, il y avait peut-être des sujets plutôt de type victoire, guerrier, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a libérés, etc. Enfin, des choses que j'ai envie de dire, qui se voient beaucoup, puisque ça, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas passés inaperçus. Ils étaient 600 000 à sortir. Et à notre époque, voilà, ça c'était il y a 3000 ans, quand le psaume a été écrit, quels sont nos sujets d'échange lorsqu'on a envie de parler, de dire à la génération suivante quels sont les exploits que Dieu a fait pour nous. Alors j'aime bien le verset 7, parce que là ça me donne une idée particulière, c'est qu'elle évoque tes bienfaits, et voilà, c'est ça, qu'elle chante ton salut. Donc que chaque génération chante ton salut. Ah mais ça, j'aime bien quand je discute avec mes collègues du salut. Ben en fait, je n'utilise pas le salut parce qu'en fait, ça, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Ça fait rétrograde. Bon, en tout cas, je le prends comme ça. Mais comme c'est un petit mot qui a attiré mon attention, ben je me suis dit, si je veux vous en faire part ce matin, faut que je cherche un petit peu. Et j'ai trouvé cette définition qui m'a éclairé. J'espère qu'elle vous éclairera aussi. Alors, elle est peut-être basique, hein, mais... Donc j'ai regardé dans le Larousse, plutôt j'ai tapé sur Internet et puis le Larousse est arrivé. Et donc le salut c'est le fait pour quelqu'un d'échapper à un danger, à un malheur, à la mort, ou pour un état au danger qui menace son existence. Il ne doit son salut qu'à la fuite et prendre des mesures de salut public, fermer les guillemets, ça c'est la définition du Larousse. Alors, il y avait d'autres définitions bibliques, mais je n'aime pas prendre les définitions bibliques quand je discute avec d'autres personnes qui ne sont pas dans le monde chrétien, parce qu'ils disent, bah, forcément, tu parles du salut, parce que la Bible en parle, et tu me reparles de... Voilà. Donc, j'ai bien aimé cette définition. Et je rebondis sur le petit échange de tout à l'heure. Bah, le port du masque et les distances, c'est aussi des mesures de salut public pour qu'on puisse effectivement continuer à vivre et échapper au danger de la contamination version Covid. Ça, c'est pour le... Je dirais quelque chose de très concret, quoi. Souvent, on parle de mesures salutaires. Des fois, on dit, ben, c'est la planche du salut, ou on va prendre des mesures salutaires dans le travail. Donc, mesures salutaires, ça, les gens, ils sont pas hostiles à ça. Mais parler du salut en soi, c'est pas évident. Voilà, donc, moi, ce que je retiens quand on parle du salut, puisqu'on dit, ben, on a le salut avec Dieu, ben, c'est bien ton salut, mais... Ben, globalement... Quelqu'un qui est étranger au monde biblique, quand il parle du salut, c'est pour échapper à un danger qui menace notre existence. Bon, j'ai envie de dire, quel est le danger auquel on échappe quand on parle du salut de Dieu ? Et quand, voilà, je raccourcis parce qu'après le temps, il va s'effiler. Donc voilà, ce salut, c'est pour échapper à un danger grave, on pourrait presque dire, à un danger grave et imminent, auquel on pourrait dire, j'ai droit de retrait, je m'enlève, parce que là, ça commence à être difficile. Et donc, ce danger grave et imminent, ben, lorsqu'on regarde les Écritures, je pense effectivement à toutes ces images dont Jésus parlait, par rapport à la solitude, par rapport à l'enfer, par rapport à la séparation de Dieu. J'ai envie de dire, vu le public ce matin en salle et par Zoom, je vais faire grâce de quelques citations, mais vous avez tous en tête où les personnes vont frapper à la porte en disant la parabole des 10 vierges. Eh ben, je vais frapper à la porte pour m'ouvrir, ben non, c'est trop tard, puis elle se retrouve toute seule. La parabole du jeune homme riche qui est mort et qui se retrouve tout seul, qui dit va donc dire à ceux qui restent sur terre que ici c'est pas facile. Non, c'est fini. Voilà, donc ce danger par rapport au salut qui vient de Dieu, c'est cette solitude, ce noir extrême. Après, il y a d'autres passages, si je repense aux échanges avec ma fille, quand on discutait de l'enfer, parce qu'elle-même avait discuté de l'enfer avec ses copines. Et comment définir l'enfer ? Donc comment définir ce danger grave et imminent ? Eh bien, effectivement, c'est cette solitude d'être séparé avec Dieu. Le fait de ne pas trouver ce repos, le fait d'avoir des regrets, des questions permanentes. Et ben, ça, c'est pas top, quoi. Et des fois, même sur Terre, il y en a qui vivent cet enfer parce qu'ils n'ont pas de repos, ils ont des regrets permanents, ils ne dorment plus la nuit. Pour moi, ça me laisse un avant-goût de ce que pourrait être l'enfer, en ce sens. Des remords permanents, sans espoir, sans solution. Côté positif, maintenant, quand la parole de Dieu parle du salut, là, ça fait évoquer, alors à part le salut, tel que je viens de le dire, par rapport au jugement dernier, j'aime bien les lettres de Paul qui justement, salue. Ça, c'est aussi une autre facette du mot salut. Salut, tu vas bien ? Ou salut, etc. Donc, c'est les salutations. Et donc les salutations de Paul dans le Nouveau Testament, et c'est vrai que beaucoup de ses lettres commencent par des salutations qui font un certain nombre de lignes. Moi, quand je dis bonjour, et ça s'arrête là en général. Paul, quand il disait bonjour, ça pouvait lui prendre une heure. Toujours est-il, c'est que dans ses salutations, il ne souhaitait pas la prospérité à ses contemporains, il ne souhaitait pas l'acquisition de biens, de propriétés, ou je ne sais pas quoi. Il leur souhaitait quoi ? La grâce et la paix de Dieu. Voilà. Donc le salut, soit on a envie de prendre le côté positif et on vient chercher la grâce et la paix, soit on a envie de temps en temps de se stimuler par qu'est-ce qui peut être l'autre côté, enfin qu'est-ce qu'on échappe avec le salut, on échappe à cette solitude, à ces regrets permanents, la séparation avec Dieu. Une autre personne qui a vu le salut de Dieu, c'est Siméon. Dans Luc chapitre 2, les versets 25 à 32, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car tu as tenu ta promesse. Mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Donc je retiendrai effectivement par rapport à ce salut, si on reprend effectivement ce verset 7, que chaque génération évoque tes bienfaits, que chaque génération chante ton salut, eh bien effectivement, j'espère pour vous, dans la salle, et vous sur Zoom, que pour vous c'est une réalité d'avoir ce salut qui donne la paix, qui donne cette espérance quand tout va mal. Et j'ose à peine reprendre le témoignage de Jean-Jacques. Je reprenais simplement le témoignage aussi que nous avait partagé Pierre la semaine passée avec Corrie ten Boom. Il y a des choses qui sont affreuses que je n'ai pas vécues. Donc, j'en resterai là pour les citer. Il y a des gens qui vivent des choses bien pires que ce que moi je peux vivre, peut-être que ce que vous pouvez vivre. Et pourtant, avec Dieu, on peut trouver le repos par rapport à toutes ces difficultés. Je ne dis pas que c'est facile. Ce doit être même très difficile. Et je me rappelais simplement, quand je reprenais l'Ancien Testament, là je viens de terminer l'Exode, et souvent, à la première lecture, enfin non, pas la première lecture, ce qui me reste, c'est, à l'époque de l'Exode, ben, Dieu était présent, il y avait la nuée, il y avait la colonne de feu, ils avaient soif, on tapait sur le rocher, il y a les Égyptiens, c'est pas grave, on est sortis, puis en plus on est sortis les mains pleines, puisque les Égyptiens ont donné de quoi, enfin des bijoux et d'autres choses. Sauf qu'à la lecture un peu plus approfondie, on s'aperçoit que ce qui s'est passé en Égypte, ça a duré quand même 400 ans. Il y a des gens qui ont été mis en esclavage. La traversée du désert, il y a des gens qui ont eu soif. Il y en a certains qui sont certainement morts de soif. Voilà, tout ça pour dire, c'est que même si à la lecture, on a l'impression que Dieu est présent partout, qu'il fait plein d'exploits, plein de choses miraculeuses, excusez-moi du terme, c'est pas tout le temps, c'est pas 24 heures sur 24. Par contre, il y a quelque chose qu'on a bien 24 heures sur 24, c'est l'espérance et la paix que Dieu nous accorde. Voilà, donc je voulais simplement vous partager, parce que l'heure tourne et je pourrais vous parler encore d'autres choses, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous partager cet encouragement qu'on voit au travers de ces versets, que chaque génération, donc nous-mêmes, je vous encourage à mon tour à dire, à parler, à publier, à partager. Donc là, vous mettez les termes que vous voulez de votre côté. La paix que Dieu vous accorde à vous, à chacun de vous, puisque ça, effectivement, c'est pour tout le monde. Paul disait qu'il savait vivre dans l'abondance. Certains sont dans l'abondance et peuvent remercier Dieu pour ça. Certains sont dans la difficulté. Et Paul disait qu'il savait vivre dans l'abondance et dans la pauvreté. Voilà, donc le salut de Dieu, ce n'est pas réservé pour une classe particulière, c'est pour tous. Et j'ai presque envie de dire, c'est pour tous et pour tout de suite, avec cette paix, cette espérance qu'il nous laisse, et pour l'éternité. Donc pour moi, c'est de savoir transmettre ce qu'on a appris de Dieu, ce qu'on a reçu de Dieu, avec effectivement cette précaution, on ne mérite rien, c'est tout par grâce. Donc quand on partage autour de nous, on n'est pas meilleur, c'est par grâce que nous avons tout ça. Et que si ce cadeau est magnifique pour nous, qu'on puisse le partager autour. Et pour ceux qui sont fatigués, je vous encourage à vous décharger sur Dieu pour qu'il puisse vous apporter cette paix. Nous avons lu tout à l'heure qu'il entend ceux qui fléchissent, il répond aux cris, il donne la nourriture. Donc Dieu entend et Dieu répondra. Donc je vous propose simplement de terminer avec ce triptyque que Laurent nous avait laissé une fois. C'est deux prières avec le pardon. Merci et s'il te plaît, pardon pour nos comportements qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Lorsqu'on veut parler de Dieu aux autres, comment est-ce qu'on est nous? Et on n'est pas toujours, on va dire, avec un comportement exemplaire. C'est pour le pardon. Le merci, c'est pour les victoires que Dieu nous a accordées. Merci pour l'espérance, merci pour la paix en ce qui me concerne. Vous avez certainement d'autres sujets. Merci de relever celui qui est fatigué. Ça, c'est les promesses qui sont dans la parole. Et enfin, merci de nous utiliser comme une bénédiction pour les autres. Voilà, donc je vous propose simplement de reprendre cette prière et de vous l'approprier si vous le souhaitez. Seigneur notre Dieu, nous te demanderons pardon pour nos comportements, pour mes comportements qui ne sont pas toujours à ta gloire. Je te remercie encore pour toutes ces victoires que tu nous accordes au jour le jour, pour la paix que tu m'accordes, pour l'espérance de la vie qui est en toi. Et je te remercie encore de fortifier, de relever celui qui est fatigué, celui qui crie à toi, celui qui souffre, celui qui a besoin de manger. Et enfin, Seigneur, merci de nous utiliser, chacun d'entre nous, comme une bénédiction pour les autres. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Si on souhaite effectivement que cette chaîne se poursuive, si effectivement on a un cadeau qui est merveilleux, partagez-le aux autres, vous n'en aurez pas moins pour vous. Vous en aurez même plus. Bon dimanche, bonne semaine, et j'ai presque envie de dire bons travaux pratiques, à la fois pour apprécier la présence de Dieu et la partager autour de vous.